Bonjour, aujourd'hui, la bourse.
J'ai une question, s'il vous plaît, qu'est-ce que la bourse ?
Oh, alors là, c'est un drôle de truc, parce que ça, c'est des trafics d'argent, quoi.
Écoutez, c'est une chose que je connais très mal et qui ne m'intéresse pas du tout.
La bourse, je crois que c'est la vie d'un pays, monsieur.
D'histoire. Que vous ayez ou non des actions, que vous sachiez ou non ce que sont le Dow Jones, le CAC 40 ou l'indice Nikkei, que vous ayez ou non entendu parler des junk bonds, de la COB, des Raiders, des Zinzins, du Nasdaq ou des appels de marge, vous n'y échappez pas. Tous les jours, dans tous les journaux, sur toutes les chaînes de télévision et de radio, et même quelques secondes avant cette émission, il vous est impossible d'ignorer l'évolution des valeurs boursières et ce rituel qui fait quotidiennement le tour du monde en suivant le soleil. Il commence à Tokyo et repris à Francfort, à Londres et à Paris, avant de se poursuivre dans la Mecque de ce qui est devenu une religion. Il est alors 15h30 à Paris et 9h30 à la Bourse de New York.
Sur le coup aujourd'hui, sur tous les genoux. Hier soir, l'indice Nikkei a fermé à 90 points de hausse. Alors les Japon ont acheté gros dès l'ouverture. Nous avons 200 000 assis à vendre, 1 million d'IBM et 350 000 pork and beans. Alors appelez vos zinzins habituels et voyez s'ils sont en appétit. La priorité du jour, c'est ces trois valeurs. Compris ? Allez, au boulot.
Et c'est parti.
Je.
Où s'en est là ?
C'est à 19, 3 huitièmes.
Le cours arrête pas de monter.
Faut dégraisser.
Quoi, vendre ?
Oui, Bajard, faut vendre !
Oui, oui, tout le paquet.
Un 7/8, j'ai ! Le long aussi, d'accord, vendu ! Un 7/8, oui, je vends !
Oui, 5 000 de mieux. Franck !
Mais enfin, bon Dieu ! Mais merde, qui c'est qui a coupé la ligne ?
Attendez !
Marc Coutin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'information à la Bourse de Paris. Nous allons parler avec vous, justement, d'une institution qui est à la fois omniprésente dans notre vie quotidienne, mais dont les rouages et surtout l'histoire ne sont connus que finalement que par une poignée d'initiés. C'est la Bourse, donc, dont l'histoire est beaucoup plus ancienne que l'extrait de film que l'on vient d'entendre. En fait, si elle utilise aujourd'hui l'informatique, la Bourse est aussi vieille que le monde, Marc Coutin.
Aussi vieille que le monde, peut-être pas tout à fait, mais on retrouve un début de bourse dès l'Empire romain. Les Romains connaissaient déjà les sociétés en commandite par action, avec des parts qui s'échangeaient librement, et Cicéron s'occupait aussi de ces affaires financières. Il y avait des collèges où on échangeait ces parts avec des intermédiaires qui faisaient office d'agents de change, commissaires privés, huissiers, etc. Tout ça n'était pas aussi clair et tranché qu'aujourd'hui.
Et d'où vient le mot, justement, de bourse ? Je crois qu'il est postérieur.
Alors,
à l'Antiquité.
Le mot de bourse, on prétend, je ne sais pas si c'est vrai, mais on prétend que ça vient d'une maison d'Anvers où les marchands de l'époque avaient l'habitude de se réunir. Cette maison appartenait à un bourgeois de Bruges et qui portait trois bourse, d'où le nom de Van der Bourse, qui, paraît-il, donne son origine au mot bourse.
D'ailleurs, c'est effectivement dans cette région qu'apparaît la première bourse. Je crois que la première, c'est d'Amsterdam, la première bourse digne de ce nom. Si
non, Anvers.
Anvers.
C'est la première. La première bourse apparaît à Anvers. Enfin, première bourse moderne apparaît à Anvers. Et puis Amsterdam, un peu plus tard, prend le relais d'Anvers.
Alors, à quoi ça sert la bourse, peut-être avant de continuer dans son histoire? On a entendu tout à l'heure un petit micro trottoir, comme on dit, réalisé par France Inter. Et c'est vrai que les gens sont un peu perplexes, même s'ils en ont toujours parlé, à quoi ça sert ? C'est la vie d'un pays, a-t-on entendu ?
C'est extrêmement simple. La bourse est un marché, et comme tout marché, ça sert à faire se rencontrer des acheteurs et des vendeurs, et ça sert à déterminer le prix auquel acheteurs et vendeurs peuvent échanger quelque chose. Alors à la bourse, ce quelque chose, ce sont des actions, des titres de copropriété sur les entreprises. Mmh.
Alors en France, elle arrive après les Pays-Bas, après la Belgique, et elle commence assez mal. Elle commence par une affaire qui déroutera pendant longtemps les Français, qui les dégoûtera même de la bourse, de la monnaie de papier, des actions. C'est la banqueroute de Lass en 1720.
C'est une bonne journée, mon cousin. Les actions du Mississippi ont encore monté. On se les arrache rue Quincampoix. Décidément, Monsieur Lass est un grand homme.
J'aime vous l'entendre dire. Votre enthousiasme m'a coûté la bagatelle de 15 millions. C'est bien ce que je vous ai donné pour soutenir Monsieur Lass ce mois-ci.
Oh, je n'y pensais même plus.
Vous êtes cher, mon cousin.
Soyons honnêtes. Un homme comme Lass, écossais, roturier et protestant, s'il n'était pas soutenu par un prince du sang, n'inspirerait aucune confiance.
Je le soutiens bien, moi.
Mais il fait partie de votre gouvernement, tandis que moi, mon appui est complètement désintéressé.
Oh, c'est un désintéressement qui me ruine.
Coutin, on vient d'entendre un extrait de Que la fête commence de Bertrand Tavernier. Ça se passe sous la Régence et c'est un peu l'apparition des actions, en tout cas en France.
L'apparition, pas tout à fait, ça avait déjà apparu sous Richelieu, mais c'est la première, sans doute, grande expérience qui se termine, en effet, par un désastre.
Vous pouvez rappeler en quelques mots de quoi il s'agissait ?
Je pense que Lass était d'une certaine façon très en avance sur son temps. Il avait inventé notamment le cours forcé des billets de banque. On connaîtra cela dès le XXe siècle. Après tout, on ne peut plus échanger ces billets de banque contre de l'or ou de l'argent, comme on a pu le faire très longtemps. Et le mécanisme lui a sans doute complètement échappé des mains. Et ça s'est en effet mal terminé. Mais c'est pas parce qu'il a échoué que le mécanisme en lui-même était mauvais.
En tout cas, ça donne une très mauvaise réputation, effectivement, à la bourse, aux actions, à la monnaie de papier. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, la bourse, la spéculation, cela fait longtemps, Patrice, que cet univers ésotérique fascine et inquiète. En 1688, par exemple, Joseph de la Vega décrit la frénésie de la bourse d'Amsterdam, qui possède son propre langage, très hermétique pour le non-initié. Le petit spéculateur, dit-il, se ronge les ongles, tire sur ses doigts, ferme les yeux, fait quatre pas et quatre fois se parle à lui-même, lève la main à hauteur de sa joue, comme pour une rage de dents, et accompagne tout cela d'une bien mystérieuse toux. À Paris, en juillet 1720, la panique est telle devant la banque créée par John Lass ou Lowe, qu'il y a même
ça
des morts.
Ça s'écrivait LAW,
c'est pour, voilà, c'est pour ça. Et les Français ne savaient pas lire W, donc ils ont lu deux S. Ce 17 juillet, raconte Jean Buvat, fut remarquable par le désordre qui y arriva. La foule y fut si extraordinairement que 12 ou 15 personnes furent étouffées dans la presse et foulées aux pieds. La foule en fut si émue qu'ayant remarqué le carrosse du sieur Lass dans la rue de Richelieu, où il eut le bonheur de se sauver, sans quoi il aurait été mis en pièces comme son carrosse, du siège duquel son cocher fut culbuté et en eut une jambe rompue pour avoir eu l'insolence de crier qu'il fallait pendre toute cette canaille. Alors la mauvaise réputation de la bourse aura la vie dure, malgré le bon sens de Voltaire, notre bon Voltaire, qui lui voit dans cette institution plutôt un symbole de liberté et de tolérance. Entrez dans la bourse de Londres, cette place plus respectable que bien des cours, écrit-il dans ses lettres philosophiques. Vous y voyez rassembler des députés de toutes les nations pour l'utilité des hommes. Là, le juif, le mahométan et le chrétien traitent l'un avec l'autre comme s'ils étaient de la même religion et ne donnent le nom d'infidèles qu'à ceux qui font banqueroute. Au sortir de ces pacifiques et libres assemblées, les uns vont à la synagogue, les autres vont boire, les autres vont à l'église et tous sont contents. À la fin du 19e siècle, Émile Zola, dans son roman L'Argent, nous transporte en fiacre dans le ventre de Paris, au pied même de la bourse. Envahi, les marches et le péristyle étaient noirs d'un fourmillement de redingotes. Et de la coulisse montait la clameur de l'offre et de la demande, ce bruit de marée de l'agio. Des passants tournaient la tête dans le désir et la crainte de ce qui se faisait là, ce mystère des opérations financières où peu de cervelles françaises pénètrent, ces ruines, ces fortunes brusques qu'on ne s'expliquait pas parmi cette gesticulation et ces cris barbares. Cet univers fascine aussi l'écrivain Maupassant. J'avoue, dit-il, qu'il y a dans ces mots « affaires de bourse »,« spéculation », un mystère impénétrable pour mon esprit. Les opérations sont fictives, les bénéfices sont fictifs, la valeur est fictive, tout est fictif. Et le premier venu se trouve fictivement riche à milliards pour se trouver très réellement sans le sou quelques jours après. Le poète belge Émile Verhaeren, même lui, consacre un poème à la bourse qu'il appelle le monument de l'or. Tant de rêves, tels des feux roux, entremêlent leurs flammes et leurs remous de haut en bas du palais fou. Le gain, coupable et monstrueux, s'y resserre comme des nœuds.
Marc Houtin, quelques réflexions. Quelles réflexions vous inspirent ces textes? Ça a fasciné les écrivains aussi, d'abord.
Oui, ça a sans doute fasciné les écrivains. Je suis un peu surpris parce qu'on ne comprend pas, donc on condamne. On n'essaie pas de comprendre le mécanisme. Ça paraît hermétique, donc c'est jugé mauvais. On pense que c'est réservé à quelques initiés. Alors que c'est quelque chose de relativement simple. Je vous dis, même les Romains connaissaient, même moi j'ai compris, donc c'est forcément très simple.
Il y a tout un jargon, il faut reconnaître, qui n'est pas nécessairement accessible au commun des mortels, surtout s'il n'est pas actionnaire.
Mais toute profession et toute activité a son jargon. Les banquiers ont leur jargon, les assureurs ont leur jargon, et quand on doit faire jouer un contrat d'assurance, on est quelquefois un peu dépassé. Je suis sûr qu'à la radio, vous avez votre jargon, qui est totalement incompréhensible pour le néophyte. Enfin, toute profession a son jargon.
Alors bon, la bourse, après la bourse d'Anvers, qu'on vient d'évoquer avec vous, il y a eu la bourse de Paris, celle de Londres, et puis en 1792, je crois, Wall Street, qui va très vite, enfin pas très vite, mais disons à partir de la Première Guerre mondiale, devenir la première place financière du monde. Comment se fait-il justement que ce soit aux États-Unis aujourd'hui que se trouve, je le disais tout à l'heure, la Mecque au fond des boursiers? Pourquoi?
Je pense que c'est d'abord à l'exemple de la puissance américaine. Et il ne faut pas oublier que juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, le PIB américain représentait 50% du PIB mondial à lui tout seul. Il était donc normal que la bourse américaine soit à la dimension de cette puissance économique mondiale.
En tout cas, c'est aussi aux États-Unis que se produit la première grande catastrophe boursière, enfin disons la plus importante de toutes, la crise de 29.
Oh, la première, non. Il y a eu celle qui a fait beaucoup parler d'elle, mais il y a eu en France un krach boursier, ça devait être en
1882, c'est le krach de l'Union Générale.
Voilà, c'est ça, 1882. Donc, il y en a eu. Il y a eu au XVIe siècle le krach sur les oignons de tulipe aussi.
Ah, les oignons de tulipe ont fait l'objet également de spéculations boursières.
Enfin, pas boursière, je ne sais pas si on pouvait appeler ça spéculation boursière, mais les grandes spéculations, c'était sur les oignons de tulipe, oui.
Depuis quelque temps, je suis chippé chez le Pékin d'une nouvelle chansonnette. Deux petits couplets suivis de trois petits refrains sur un petit air original. Ça descend, puis ça remonte et puis ça redescend. C'est un rythme moderne et trépidant, entraînant, très swing et dynamique, il vous prend. Dès le premier instant où l'on entend ces quelques notes qui font gentiment de la gymnastique en sautillant. C'est d'ailleurs sur ce rythme-là que tout va et bien ici-bas. Observez tout autour de vous et vous verrez que partout ça descend, puis ça remonte et puis ça redescend. À droite, à gauche, en arrière, en avant, constamment tout remonte et redescend. La température, le cours d'échange et des actions, le prix de la livre de beurre, et tout un tas de choses font constamment l'imitation de ce petit jeu déjà vieillot, le yo-yo. Ça descend, puis ça remonte et puis ça redescend. C'est comme une route qui descend trop longtemps. Forcément, il faut qu'elle remonte l'ascenseur, et le bateau qui vous donne mal au cœur, la balançoire qui vous en fait autant. Tout ça monte, 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 puis redescend. Les trésors que nous adorons,
France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
Et Bébert, qu'on vient d'entendre, ça monte et ça redescend. C'est une chanson de 1944. Alors depuis cette chanson, Marc Houtin, qui date de 1944, les bourses ont profondément changé. Et d'abord, elles se sont modernisées. L'informatique est arrivée.
Oui, à des degrés divers et à des dates un peu diverses selon les pays. Mais à Paris, on a commencé à informatiser ce qu'on appelle le back-office ou l'intendance dès 1984. On a supprimé les titres papier. Il n'y a plus que des écritures totalement informatiques. Et puis les échanges proprement dits se sont informatisés à partir de 1986. Et aujourd'hui, c'est entièrement sans papier et sans parquet, sans crier.
Sans cloche aussi, je crois que la cloche est partie en Pologne, on l'a offerte aux Polonais pour qu'ils créent
le... Il n'y a plus de cloche, il n'y a plus de parquet, tout se fait par ordinateur.
Il n'y a même plus d'ailleurs de commis, plus d'agents de change au sens propre du mot. En revanche, apparaissent maintenant les Golden Boys, ou sont apparus les Golden Boys avec leurs chemises rayées, leur Porsche 924, leurs bretelles bariolées et leur cynisme. Écoutez cet autre extrait de Wall Street.
Je viens d'apprendre que tu veux fourguer la Blue Star. Pourquoi ? Mais pourquoi tu fous cette compagnie en l'air ?
Parce qu'elle est foutue, pauvre cloche !
J'ai réétudié le dossier, j'ai changé mes batteries.
Mais ces gens vont perdre leur job, ils vont se retrouver à la rue. Mon père a travaillé là pendant 23 ans et je leur ai donné ma parole.
Il s'agit de pognon, petit. Le reste, c'est du bavardage. C'est comme à la balançoire, un jour tu montes, un autre jour tu descends. L'argent en soi n'est pas gagné ou perdu, il est simplement transféré d'une poche à une autre poche, voilà tout. C'est comme un tour de magie. En Amérique, 1% des gens détiennent 50% des richesses, 5000 milliards de dollars. Pour un tiers, c'est obtenu par le travail. Les deux autres tiers proviennent d'héritage, de l'intérêt des intérêts qu'on verse aux veuves et à leurs gosses. Et mon job, l'achat, la vente, la spéculation, c'est une foutaise. Il y a 90% de l'Amérique profonde qui ne possède rien, ou quasiment rien. Et moi, je ne crée rien. Je possède. C'est nous qui fabriquons les règlements. Les nouvelles, la guerre, la paix, la famine, les émeutes, le prix des brosses à dents. On tire à la pince du haut de forme, et le public applaudit et se demande comment on a fait. Tu n'as pas la naïveté de croire que nous vivons en démocratie, j'espère. C'est le libre marché.
Marc Coutin, on vient d'entendre encore un extrait donc du film d'Oliver Stone, Wall Street, qui n'a pas eu l'air de vous convaincre du tout.
Non, c'est du très bon cinéma, mais ce n'est pas forcément la réalité. C'est comme un film de guerre, ça n'a rien à voir avec la guerre. Un film de guerre, c'est un beau spectacle. Je ne suis pas très sûr que la guerre, en réalité, soit un aussi beau spectacle et qu'on sorte de la guerre comme on sort d'une salle de cinéma. Alors le film, c'est sûrement un très beau film que j'avais beaucoup aimé, mais ça n'a rien à voir avec la bourse. Quand on entend des dialogues où je fais monter, je fais baisser, je ruine des sociétés. Enfin, tout ça fait partie...
C'est quand même un peu vrai, de temps en temps.
Non, c'est totalement faux. Ça fait partie des poncifs. C'est confondre la cause et les conséquences, les apparences et la réalité. C'est prêter aux boursiers et aux intermédiaires, c'est leur donner un pouvoir qu'ils n'ont pas.
Vous êtes comme le général de Gaulle qui disait « La politique de la France ne fait pas la corbeille ».
Je ne sais pas du tout comme ça, mais la bourse est un marché qui fait se rencontrer des acheteurs et des vendeurs, et ces acheteurs et ces vendeurs ne font pas la pluie et le beau temps.
Mais l'histoire du film d'Oliver Stone, c'est quand même une histoire authentique. Je crois que c'était un Golden Boy très célèbre, qui s'appelait Michael Milken, qui faisait fortune à l'époque jusqu'au moment où il a été arrêté, condamné à 2 ans de prison, à 900 millions de dollars, je crois, d'amende. C'était les Golden Boys, ça, ils ont existé, ceux-là.
Que des Golden Boys aient existé, que certains gagnaient beaucoup d'argent, oui, ça, personne ne l'a jamais nié. Mais est-ce qu'on peut d'abord réduire les marchés à ces Golden Boys et à quelques années, d'une part? D'autre part, il y a des opérations pour lesquelles M. Milken avait été condamné parce qu'elles étaient illégales. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des opérations illégales faites par certains que les marchés eux-mêmes sont remis en question.
C'est pour ça d'ailleurs qu'effectivement, on a créé très tôt, d'ailleurs dans les années 30 aux États-Unis, une commission des opérations en bourse qui appelle la SEC aux États-Unis, la COB en France. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fraudes. Il y a aussi une chose qui est frappante, c'est l'évolution du nombre des actionnaires. Ils sont finalement assez peu nombreux. Je crois que les Anglais battent tous les records avec 19% des Anglais donc, qui sont actionnaires, 15% des Américains seulement, et 10% des Français, c'est-à-dire 5 à 6 millions de Français, au lieu de 8 à la veille de la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a une désaffection et pour quelle raison des petits porteurs, au fond, pour les actions boursières ?
Je crois que c'est un peu plus compliqué. Alors, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il faut se souvenir qu'il n'y avait pas véritablement de système de protection sociale, pas d'assurance chômage, pas d'assurance maladie, pas de système de retraite ou relativement faible. Et donc, il fallait épargner pour se constituer soi-même son capital retraite. Et il n'y avait pas énormément de possibilités d'investissement. Alors aujourd'hui, on compte...
Il y a peut-être aussi, excusez-moi, je vous interromps, mais des découragements provoqués par la crise de 29, par celle de 87 aussi, aux États-Unis et dans le monde.
Non, je ne pense pas. Simplement, aujourd'hui, les épargnants ont beaucoup de possibilités. Alors, on compte entre 5 et 6 millions d'actionnaires en direct, mais on oublie qu'en fait, ils sont plus nombreux que cela, si on y ajoute ceux qui le sont par l'intermédiaire de SICAV ou qui ont des contrats d'assurance vie qui, derrière, sont placés en valeur mobilière sur le marché boursier.
Alors justement, vous évoquez les SICAV, etc. C'est vrai qu'il y a eu aussi une évolution dans le type d'action et dans les marchés. D'abord, il y a de nouveaux marchés qui se sont créés dans le monde. Il y en a beaucoup qui apparaissent aujourd'hui dans les pays de l'Est, maintenant qu'ils ont renoncé au communisme. À Varsovie, par exemple, à Moscou.
Oui, mais même à Shanghai, il y en a pratiquement partout aujourd'hui. Si les bourses se créent ou se recréent là où on les avait supprimées, c'est bien que ça répond à une nécessité. C'est pas juste pour le plaisir de certains.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi quel est l'avenir de la bourse, au fond? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui de nouveaux types de marchés? Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du Nasdaq, qui est l'Association nationale des négociants en valeurs mobilières, qui est devenue la deuxième bourse d'action des États-Unis, qui fonctionne, elle, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de clôture ni d'ouverture, je croyais. Enfin, sur ordinateur, vous avez l'air surpris parce que je dis, moi, je n'y connais pas grand-chose, je suis actionnaire.
Tout à fait. Le Nasdaq est une bourse, une bourse un peu différente du New York Stock Exchange, dans la mesure où le Nasdaq n'a jamais eu de parquet de crier, mais le Nasdaq ne fonctionne pas 24 heures sur 24. Le Nasdaq a une ouverture et une clôture.
Est-ce que la bourse a encore de l'avenir devant elle?
Oui, la bourse a de l'avenir devant elle. Alors, les bourses évoluent, leur technique évolue. Il faut qu'elles correspondent aux besoins des émetteurs et des investisseurs. Mais on ne peut pas se passer de ces marchés d'échange qui assurent la liquidité des titres.
C'est quoi la bourse du 21e siècle, Marc Houtin ? Du troisième millénaire. Comment vous la voyez ?
Je ne sais pas. Je ne suis pas devin, mais elle existera. Elle existera avec les moyens technologiques du 21e siècle. Donc, par certains aspects assez différentes de la bourse d'aujourd'hui ou d'hier, elle devra correspondre aux besoins des grandes sociétés et des plus petites sociétés. Elle devra répondre aux besoins des investisseurs et des États. Après tout, le plus gros émetteur de valeurs mobilières en France, c'est l'État. Hein, et que l'État n'a pas les moyens de se passer de la bourse. Et puis la bourse, eh bien, ça reste la bourse, un marché, c'est-à-dire faire se rencontrer des acheteurs et des vendeurs.
Vous n'êtes pas devin, c'est embêtant pour quelqu'un qui travaille pour la bourse. Est-ce que vous n'avez pas par hasard un petit tuyau à donner aux auditeurs de 2000 ans d'histoire? Tenez, dans quoi investir demain?
Un tuyau.
Pas demain, c'est pas possible parce que c'est samedi.
Un tuyau, c'est très très simple. Il faut savoir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'ils ont une épargne déjà constituée ou une épargne qui se constitue tous les mois ou tous les trimestres? Il faut qu'ils sachent pourquoi ils épargnent, pour leur retraite, pour s'acheter un appartement, pour s'offrir un tour du monde, ce qu'ils attendent de leur épargne, des revenus, des plus-values, des économies d'impôts, et puis à court terme, à moyen terme ou à long terme, et enfin, quelle part de risque ils sont prêts à prendre. Plus ils veulent gagner d'argent, plus il faut prendre de risques. Plus ils veulent de sécurité, moins ils auront de rentabilité.
Eh bien, merci Marc Houtin de nous avoir parlé donc du passé, du présent et de l'avenir. Merci. De la bourse. Je recommande quelques lectures. La bourse de Michel Turin, publiée dans la collection Découverte Gallimard. La bourse de Jean-Pierre Gaillard, que tout le monde connaît bien sur cette antenne, qui a été publiée chez Ballan. Et puis Wall Street ou le miracle américain de Alain Cotta, paru récemment chez Fayard. Vous avez pu également entendre un extrait de Wall Street, un film réalisé par Oliver Stone et diffusé par CBS Fox Video. Et puis également un extrait du film de Bertrand Tavernier,
que la fête commence. Vous pouvez retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs, 08 36 68 10 33, 2 francs 23 la minute, et puis vous pouvez également nous rejoindre sur internet, www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire. C'était donc 2000 ans d'histoire à la technique Michel Toutain, documentation Rebecca Denante et Christina Villarcan, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Nous n'avons pas parlé aujourd'hui de l'architecte de la Bourse, Brongniart, mais c'est aussi l'architecte du cimetière du Père-Lachaise qui sera notre sujet de lundi prochain, jour de la Toussaint. Mardi, nous parlerons du prix Goncourt, une semaine avant son attribution, et puis mercredi sera la première d'une série d'émissions spéciales consacrées à la ville de Berlin, puisque vous le savez, le mur est tombé il y a 10 ans. Cela valait la peine de rappeler l'histoire de cette ville, de sa naissance au XIIIe siècle jusqu'à la chute du mur le 9 novembre 1989. Donc n'oubliez pas de suivre cette série spéciale Berlin de mercredi prochain jusqu'au mardi 9 novembre. Mais tout de suite, retrouvons Chris